Nous allons maintenant construire le tracé du cycle de la centrale à vapeur dans le diagramme des frigoristes de l'eau. Téléchargez ce diagramme à partir du lien indiqué sous cette vidéo, puis reportez les différents points du cycle en suivant les indications que je vais vous donner. Au point 1, en sortie de condenseur, l'eau est à l'état liquide à une température d'environ 27 degrés Celsius. Sur le diagramme, le point est facile à repérer à l'intersection de l'isotherme T égale 27 degrés Celsius et de la courbe de saturation. À cette température, la pression de saturation de l'eau est très faible, comme le montre cette figure. Elle vaut précisément 0,0356 bar. La pompe comprime l'eau liquide à environ 128 bars, ce qui représente un rapport de compression considérable, de l'ordre de 3600. La température T restant sensiblement constante pendant la compression 1-2, le point 2 se situe à l'intersection de l'isotherme T égale 27 degrés Celsius et de l'isobare P égale 128 bars, horizontale d'ordonnée 128 bars. Comme nous l'avons vu précédemment, l'évolution de référence est l'adiabatique réversible, qui est ici quasiment verticale, mais non représentée sur le diagramme. L'eau sous pression est ensuite portée à haute température dans la chaudière, l'échauffement comportant trois étapes et l'évolution de référence étant une isobare représentée par un segment horizontal dans ce diagramme. Tout d'abord, le liquide est chauffé selon l'évolution 2-3A de près de 27 degrés Celsius à environ 330 degrés Celsius, juste au-dessus de l'isotherme T égale 327 degrés Celsius, température de début d'ébullition à 128 bars. Le point 3A se trouve sur la courbe de vaporisation et cette même isobare. Ensuite, prend place la vaporisation à température constante, 330 degrés Celsius, selon l'évolution 3A-3B, la vaporisation s'effectuant à pression et température constante. Le point 3B se trouve donc sur la branche descendante de la courbe de vaporisation, ou courbe de Rosée, à son intersection avec la droite horizontale de pression 128 bars. La troisième partie de l'évolution est la surchauffe de 330 degrés Celsius à 447 degrés Celsius selon l'évolution 3B-3. Le point 3 est encore par hypothèse à la même pression, mais à une température T3 de 447 degrés Celsius. Il se trouve donc à l'intersection de l'horizontale P égale 128 bars et de l'isotherme T égale 447 degrés Celsius, qui est représenté uniquement partiellement sur le diagramme. Le point 3 se trouve par ailleurs sur une courbe rouge inclinée à concavité tournée vers le bas, correspondant à une adiabatique réversible. L'évolution 3-4 de référence est une détente adiabatique réversible de 128 bars à 0,0356 bars. Le point étant dans la zone mixte, cette dernière est confondue avec l'isotherme T égale 27 degrés Celsius. Le point 4 est donc à l'intersection de la courbe rouge inclinée à concavité tournée vers le bas et de cet isotherme. Son titre X est compris entre 0,7 et 0,8. Par interpolation linéaire, on peut l'estimer égal à 0,72. Pour la condensation 4-1 du fluide de travail, l'évolution de référence est une isobare représentée par un segment horizontal dans le diagramme. Cette figure récapitule la construction du cycle de la centrale à vapeur. Elle montre les liens entre les points du schéma du cycle et ceux du tracé sur diagramme. Notez que sur le diagramme, le cycle est parcouru dans le sens des aiguilles d'une montre. C'est une caractéristique des cycles moteurs. Les enthalpies des points peuvent être directement lues en projetant les différents points sur l'axe des abscisses et les énergies mises en jeu s'en déduisent facilement. Ceci permet notamment de déterminer le rendement du cycle. Ce tableau fournit ces valeurs. Notons que la lecture dans ce diagramme du travail de compression est très imprécise et qu'il est préférable de l'estimer à partir de l'intégration de delta tau égale VDP, très facile à effectuer, V étant constant. Il vaut donc delta H égale V delta P étant exprimé en pascal. Comme on le voit sur cet exemple, la représentation du cycle dans le diagramme H log de P est très parlante sur le plan physique. Les échanges de chaleur quasiment isobares correspondent aux segments horizontaux et les compressions et les détentes sont des adiabatiques réversibles, d'autant moins pentues que l'on s'écarte de la zone liquide. Cette figure montre le tracé du cycle dans le diagramme, les points étant reliés. L'énergie utile est la valeur absolue de la somme algébrique du travail fourni à la pompe et produit par la turbine, soit 1306 kW, et l'énergie payante, la chaleur fournie par la chaudière, H3-H2 égale 3063 kW. Le rendement s'en déduit. Dans la réalité, la turbine n'est pas parfaite et la détente suit une adiabatique non réversible. Comme nous l'avons expliqué précédemment, la transformation réelle est caractérisée par un rendement isentropique état, défini dans le cadre d'une turbine comme le rapport du travail réel au travail de la détente réversible. Pour trouver le point 4' réel, on détermine la valeur du travail TOS mise en œuvre dans la machine parfaite. On la multiplie par état, ce qui donne la valeur du travail réel tau. Comme tau égale H3 moins H4', l'enthalpie du point 4' est égale à celle du point 3 moins tau. Dans le cas présent, en prenant état égale 0,9, on a tau S égale H3 moins H4 égale 1319 kJ par kg. Tau égale état tau S égale 0,9 fois 1319 égale 1187, et H4' égale 3199 moins 1187 égale 2002 kJ par kg. Le point 4', qui est toujours dans la zone d'équilibre liquide-vapeur, se situe donc sur l'isobare P égale 0,0356 bar, ou, ce qui revient au même, sur l'isotherme T égale 27 degrés Celsius, à l'abscisse H égale 2002 kJ par kg. Le titre en vapeur valant 0,775. Cette figure montre la nouvelle allure du cycle. Le cycle précédent est représenté en tire T. Malgré la pénalité due aux irréversibilités de détente, l'augmentation du titre en fin de détente est favorable, d'une part, à la prolongation de la durée de vie des aubages de la turbine, pour qui les gouttelettes de liquide constituent des abrasifs redoutables, et d'autre part, au rendement isentropique qui chute lorsque le titre diminue. Nous n'avons pas ici tenu compte des pertes de charge dans les échangeurs. Il serait facile de le faire en opérant sur le même principe que ce qui a été indiqué et en modifiant les pressions entre les entrées et les sorties des échangeurs de chaleur.